Mais qu'est-ce que je vois?
Peut-être un message. Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quel tout fait.
Les bourgeois n'ont jamais rien inventé.
Les bourgeois.
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein, bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la main.
C'est bon, tu l'as fait, range ton cahier.
À Rebrousse-Poil, quelques pas d'exploration documentaire.
Maman, papa, mamou, depuis un certain temps, j'agis différemment et je voudrais que vous sachiez pourquoi. Ces derniers mois, je n'allais clairement pas bien, je ne pouvais pas vous en parler, car pour moi, c'est se mettre à nu et comme vous le savez, je suis très pudique. Je vous aime, je ne vous le montre pas assez, je râle tout le temps contre vous, mais au fond de moi, il m'est impossible de vous détester. Vous êtes des parents en or massif et je ne peux le nier. Si je vous écris cette lettre, c'est pour vous faire part de ce que je ressens en ce moment, et je ne peux pas vous le dire en face car je n'y arriverai pas. J'oublierai très certainement des points, j'aimerais que vous la lisiez jusqu'au bout, peu importe ce que vous en pensez, lisez-la jusqu'au bout. Je vais commencer par quelques souvenirs d'enfance que je cachais de tout le monde, par honte peut-être, pour que vous compreniez mieux qui je suis. Je me souviens lorsque j'avais 4 ans, quand c'était le soir que je devais me mettre au lit, je mettais dans mon pyjama au niveau de l'entrejambe une petite peluche ou des mouchoirs pour simuler la petite bosse d'un éventuel pénis. Je l'ai fait pendant plusieurs mois en cachette. Vers 8 ans, quand nous étions chez Mimo, dans la salle de bain, papa avait laissé son rasoir et sa mousse à raser. J'avais commencé à m'embarbouiller le visage comme je voyais papa le faire certains matins. Maman est arrivée et elle m'a enlevé la mousse en me disant que c'était pour les grands monsieur. Je voulais de la barbe. Avec le recul, je comprends mieux. Quand j'ai eu accès à Internet un peu plus librement, vers 11 ans, me semble-t-il, j'ai fait une recherche avec ces mots. Femme, devenir homme. Je suis tombée sur un site quelconque. Il y avait des schémas, un corps d'homme, un corps de femme. Puis des explications. Je lis les modifications qu'entraînent les hormones mâles sur le corps d'une femme. Épaississement de la peau, épaississement des muscles, la voix qui mue. Tout cela, je le veux. Puis un élément apparaît. Densité de la pilosité. Je me dis que si je n'en veux pas, des poils, c'est sûrement que je ne veux pas devenir un homme. Je pensais que c'était tout ou rien. Alors je ferme la fenêtre, j'efface historique et oublie tout ça. Maintenant, parlons de la puberté. Première chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, à moi, à maman. La poitrine. Elle a commencé à pousser dès mes 11 ans. On me dit qu'il faut que je commence à porter des brassières, puis des soutiens-gorge. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas du tout mes seins non plus. Maman me dit que je finirai par les aimer et que c'est normal pour l'instant que mon corps se transforme. Je la crois et j'attends. Malheureusement, j'ai 21 ans et je ne veux plus de ces deux protubérances qui envahissent mon torse. Et mes hanches, je ne comprenais pas pourquoi ça s'élargissait. On m'explique que c'est pour quand j'aurai un enfant qu'il y ait de la place. J'ai horriblement peur, je ne veux pas d'enfant dans mon ventre. C'est contre nature pour moi, mais je ne comprends pas non plus pourquoi. Et le meilleur, les règles. Quand j'ai appris le terme de menstruation, disons 2-3 ans après, je parlais déjà de monstruosité. En plus du fardeau de les avoir, elles sont douloureuses et abondantes. J'ai fait avec, maintenant je n'en peux plus. J'ai changé de pilule afin de plus en avoir, sachant que c'est une solution provisoire. Aujourd'hui, lorsque je vois mes jambes non épilées, je suis rassurée. Ça fait masculin, ça me réconforte. Lorsque je sens que mon corps n'est pas en concordance avec qui je suis, je regarde mes jambes. Pas la forme, juste le fait qu'elles ne soient pas épilées. Et je suis mieux. J'ai également rencontré des gens dont le vécu résonnait de façon étrange avec le mien. Cela m'a emmenée dans une période de profonde remise en question qui a duré plusieurs mois. Au terme de cette période, j'en ai conclu à quelque chose qui est une évidence pour moi. Mon genre n'est pas identique à celui qu'on m'a attribué à la naissance. Cela arrive, ça touche un enfant sur 500. Cela s'appelle la dysphorie de genre. Pendant ces quelques mois, j'avais commencé à travailler ma voix. Elle était devenue grave, quoique forcée. Mais plus j'utilisais cette fréquence, mieux je me sentais. J'ai aussi acheté un binder. Il s'agit d'un gilet compressif. Ça aplatit la poitrine. Il y a eu également une grosse période sombre où je ne sortais que pour aller en cours et me nourrissais uniquement de grignotage. Je ne supportais plus de me montrer. Mon corps me dégoûtait et je ne comprenais pas que j'avais une crise de dysphorie. cette crise de dysphorie qui s'est aussi caractérisée pendant ma période de tentative de suicide et d'autres idées noires durant mes années de 6e, de 5e, qui s'est caractérisée pendant mes périodes boulimiques et anorexiques. Je voulais devenir le plus mince possible afin de ne plus avoir aucune rondeur. J'avais vu que normalement, les seins disparaissaient et qu'il n'y avait plus de hanches, ni de règles. Et plusieurs mois après cette remise en question, j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai poussé la porte d'un psychiatre sur Dijon. Je lui ai parlé de mon ressenti, de cette puberté que j'ai vécue comme ratée. Je lui ai expliqué que ça a été un soulagement pour moi d'avoir eu mes premières règles car je pensais que ça allait faire de moi une fille comme les autres, qui composaient mon collège. Je les voyais heureuses d'avoir leurs règles, les seins, des hanches. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi, après tous ces changements, je n'étais pas heureux. À la fin du collège, je me suis dit que j'étais lesbienne. Ça pouvait expliquer mon comportement garçon manqué. Mais qu'importe mon orientation sexuelle, les deux genres m'attirent et j'avais plus honte d'aimer un homme qu'une femme. Et m'identifier comme lesbienne, ça me permettait de placer mon attention sur ça et seulement ça. Je lui expliquais que bizarrement au lycée, quand on me posait la question sur les enfants, je répondais que je voudrais qu'ils m'appellent papa. Je lui ai aussi dit que je me définissais comme une demi-fille pendant mes 5 années au lycée. Il comprend que je n'invente rien, que c'est un ressenti, que c'est en moi, que quoi qu'il arrive, je ne céderai pas. Il m'a demandé depuis combien de temps je n'ai plus aucun doute, je lui réponds depuis au moins 8 mois. Il m'a rédigé une attestation disant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. En me quittant, il me dit « Et surtout, n'oublie pas, être transgenre n'est ni une maladie mentale, ni un handicap, ni une honte, ni un délit. » Au jour de l'écriture de cette longue lettre, un rendez-vous a été pris chez un endocrinologue. Ce médecin, après lecture des résultats suite à une prise de sang, me prescrira des hormones. Ce sera de la testostérone, afin de faire une seconde puberté. La vraie, cette fois. J'aurai la voix qui va muer. Une densité de la pilosité semblable à celle de papa. C'est la génétique. Cette fameuse carrure en V dont je rêve. Un amincissement léger des hanches. Un épaississement de la peau. Une répartition graisseuse différente. Les bourgeons mammaires qui vont se ramollir et perdre en volume progressivement. Et les glandes mammaires vont se rétracter. Une modification du visage au niveau de la forme et des traits. Et bien sûr, l'arrêt total des règles au bout de quelques mois. Ces modifications se feront doucement, et j'y tiens vraiment. Si je le pouvais, je continuerais à vivre et à me conformer en femme pour ne pas vous blesser et pour vous protéger. Malheureusement, l'être humain a ses limites, et je veux vivre, je ne peux pas continuer à survivre. Je vais conclure cette lettre en vous disant que je vous aime énormément, malgré la teneur de tout ce qui est expliqué avant. Je vous remercie d'avoir lu la lettre jusqu'au bout, je sais que ce n'est pas évident pour des parents. Je vous en ai fait voir de toutes les couleurs, mais j'espère que vous savez que ce n'était pas dans le but de vous faire du mal. Être trans, ce n'est pas se mettre en marge de la société, ce n'est pas se prostituer et finir sous un pont, et ça ne mène pas au suicide. Les cas où les personnes trans se suicident ou se prostituent, c'est lorsque la famille rejette cette personne. Cela se définit en un seul mot, transphobie. Pour moi, l'épisode du mois de mai est pardonné. Vous aviez peur de perdre votre fille. Or, rien ne changera en ma personnalité, si ce n'est que je serai beaucoup plus heureux d'être l'homme que je suis au fond de moi, et encore plus avec vous à mes côtés. Ne nous rejetons pas la faute les uns aux autres. Il n'est pas question d'éducation, vous avez été des parents parfaits. Mais il s'agit bien de ressentis intérieurs qui me concernent moi et uniquement moi. Croyez-moi, si cela avait été un choix, je m'en serais bien passé. Et ce n'est pas de la curiosité, sinon au bout d'un mois j'aurais vite quitté cette idée. Je suis reconnue comme masculin auprès de mon entourage à Dijon. En tant que Tom auprès de la fac et de mes professeurs et camarades. En tant que Tom Alex auprès de mes amis, de mon harmonie et des gens que je rencontre. Comme vous l'avez vu, j'ai changé ma coupe de cheveux. Ça m'a fait peur au début. La coiffeuse a su y aller progressivement et finalement, ça a donné le résultat que je souhaitais et y attendais depuis très longtemps. Mais j'avais peur. Et me voilà avec cette nouvelle coupe et c'est une libération. Le même jour, j'ai acheté 2 chemises chez les hommes. À peine entrée dans le magasin que j'avais 7 chemises sur le bras à essayer. Je n'ai jamais autant aimé m'habiller que depuis maintenant. Depuis que je revis. Croyez-le, je renais. Je profite de tout ça. J'aime tout ce qu'il se passe ces derniers temps. Ce prénom, je l'ai choisi, et il m'a un peu choisi aussi. Je vous explique. Tom, c'est le prénom auquel je me suis presque toujours identifiée. Alex, c'est le diminutif d'Alexandre, l'un des prénoms que j'aurais porté si j'avais été assigné garçon à la naissance. Alors j'ai continué mon petit bout de chemin de Tom Alex afin d'effacer un peu cette aurore triste, malheureuse et mal dans sa peau, et de faire apparaître Tom, le vrai moi qui respire le bonheur. Quand vous lirez Céline, j'aurai déjà entre mes mains ce traitement qui me permettra de passer de la noirceur à la lumière. Je renaîtrai. Je sais qu'il n'effacera pas tous mes problèmes de mal-être. Je ne le fais pas dans l'optique de vivre dans un monde rose. J'en suis conscient. Je suis un homme et je fais tout cela car ça exprimera cet homme enfoui en moi. Je le fais pour rendre mon corps plus acceptable à mes yeux. Mon orientation sexuelle n'a rien à voir là-dedans, de même que ce que j'ai entre les jambes. Je ne suis pas une lesbienne mal assumée, mais un homme. Je suis en transition et je veux aller jusqu'au bout de ma vie. Je suis adulte, je sais ce que je fais, je suis assez intelligent et mature pour savoir ce qui me concerne par rapport à mon corps. Je vous aime, papa, maman, mamou, j'ai besoin de vous. Post-Christum. Je sais qu'en recevant et en lisant cette lettre, votre première réaction sera négative. Sachez que je vous attendrai 2 semaines, 6 mois, 5 ans s'il le faut, mais je vous attendrai.
À Dijon, dans les locaux de l'association LGBT Cigale, rencontre avec Thomas Lex et Damien. Est-ce que tu pourrais raconter comment tes parents ont réagi après avoir lu cette lettre ?
Dans un premier temps, on l'a envoyé le samedi, donc je me doutais bien qu'elle allait arriver mardi. Donc le mardi soir, en rentrant de cours, je me suis précipitée dans l'appartement avec Damia, ma compagne, et j'ai attendu le téléphone, devant le téléphone, bien 5, 10, 15, 30 minutes, je sais pas, très longtemps. Puis quand ça a sonné, j'ai répondu et ma mère posait des questions, m'a dit « on a lu ta lettre ». Il n'y avait pas de colère, il n'y avait aucun sentiment, il y avait presque neutre, je dirais. « On a lu ta lettre, ok ». Et je lui demande ce qu'elle en pense. Elle me dit que c'est une bêtise, que l'issue est fatale, que ce que je fais, c'est une phase d'adolescence. C'est assez dur d'entendre ces mots parce qu'on dirait que j'ai écrit cette lettre pour rien. Donc on discute de ça, j'essaie de la convaincre que c'est un ressenti, que c'est quelque chose de réel, ce n'est pas qu'une seule phase, c'est un ressenti qui est là depuis 10 ans, mais je n'ai les mots que depuis 8 mois, comme je l'ai raconté dans la lettre. Et elle ne voulait plus me revoir. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus que je retourne dans mon village, ni à mon orchestre, parce qu'elle a peur du regard des autres, surtout. Parce qu'on est dans un petit village de 1500 habitants.
Et ton père, est-ce que tu as su comment il avait réagi à la lecture de la lettre ?
Je lui ai demandé, justement, lors de ce premier appel, j'ai dit « Et papa, qu'est-ce qu'il en pense ?» C'est là que ça m'a mis en larmes, parce qu'avec mon père, j'ai un lien très fort, plus fort qu'avec ma mère, malheureusement. Et elle me dit « Oh, tu sais, ton père, il parle jamais, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. »
Et après cette première réaction, est-ce que, du coup, tu as pu parler à nouveau avec eux, enfin...
J'ai eu un appel une demi-heure après donc ce premier appel de 37 minutes, où là, il y avait vraiment de la colère. Elle me répétait que je ne retournerais pas dans mon village, à mon orchestre, que c'était fini, que je ne les verrais plus, que de toute façon, je n'avais pas de mutuelle ni de sécurité sociale pour payer les frais de mon traitement, tout ça. Donc, c'était assez matérialiste sur le coup. Et je lui ai dit « Écoute, maman, on va couper là parce que tu es en colère. » Après, le lendemain, elle m'avait rappelé, donc nous étions mercredi. Cette fois-ci, elle était dans le marchandage, plutôt dans une démarche pour me dire « Oui, mais t'habiller en garçon, ça ne te suffit pas. La coiffure, perdre un peu de poids aussi pour être plus masculin dans ton apparence. » Je lui ai dit que ce n'était pas qu'une question d'apparence, que c'était vraiment un ressenti, un rapport avec le corps. Que voilà, il y a une poitrine, il y a des hanches. Déjà, ça, je veux le supprimer. Voilà, il y a des traits féminins. Ça, voilà, l'androgynie, être d'apparence masculine ne me suffisait pas. Le lendemain encore, le jeudi, elle me rappelle. Et elle me dit, concrètement, je suis dans le déni. Je ne peux pas accepter. Et elle me dit de ne plus prendre contact avec les amis qu'on a en commun. Parce qu'elle a peur qu'ils aient pitié d'eux quand ils iront les voir. Ils ne veulent plus donc, que j'aille à mon harmonie, alors que j'y suis donc mon orchestre depuis une dizaine d'années. Je les connais depuis 10 ans, je leur avais fait mon coming out, ils m'avaient applaudi à la fin, donc ils étaient au courant. Puis ils me disent aussi, mais nos amis d'enfance, de ne plus prendre contact avec eux. Et après je lui ai dit, on va arrêter de se téléphoner maintenant, et on va attendre samedi de se voir. Ce samedi... J'ai été un peu surpris parce que je m'attendais à ce que les voir en colère, plutôt distants et froids. Et mon père m'a dit, bah alors, il est où mon Tintin? Parce que, avec ma nouvelle coupe de cheveux, ça fait un peu Tintin, donc il attendait Milou. Enfin, il me faisait des blagues, hein, un petit peu comme ça. Mais on voyait que c'était pour cacher une certaine anxiété. Et après, ma mère, bah, elle souriait, c'était un sourire forcé, mais plein de tristesse. Enfin, il n'y avait pas de colère, c'était de la tristesse, purement de la tristesse. Et enfin, elle était abattue, vraiment. Donc, ils avaient ramené mes cartons, ils m'ont demandé, bon, bah, qu'est-ce que tu veux garder, voilà. Et après, bah, on a parlé, donc ma mère, elle gribouillait sur le carton parce qu'elle ne voulait pas trop parler, elle ne savait pas trop quoi dire. Par contre, c'est mon père qui posait beaucoup de questions. Il était neutre, pas froid, mais disons dans la curiosité. C'est comme s'il avait fait quelques recherches. Parce qu'à un moment, il me parle bon, assez crûment d'opération génitale. Il me dit « Oui, mais tu n'auras jamais d'érection. » Moi, je lui ai dit « Mais ça, c'est pour la phalloplastie. Enfin, il y a deux types d'opérations génitales pour l'IFTM, donc les filles vers hommes. » Il y a deux types d'opérations. Je lui explique que pour la phallo, non, il n'y a pas d'érection, mais pour la méta, il y en a une. Il me dit oui, mais il y a un système de pompe, tout ça. Donc on voit quand même qu'il s'est renseigné. Il parle de choses auxquelles j'aurais jamais cru parler avec mon père ou même avec ma mère qui était à côté. Je vois que ma mère est en larmes, donc je la prends dans mes bras. Et donc ça la rassure, parce que c'est des gestes que je n'ai jamais faits. Et mon père a posé des questions, donc toujours par rapport aux hormones, qu'est-ce que ça va me faire, comment ça va agir. Parce qu'il me dit ne pas avoir lu la lettre. Devant mon air triste, je lui dis, bah pourquoi? Il n'y avait pas d'image. C'est un grand enfant, il aime bien les bandes dessinées. La prochaine fois que j'aurai quelque chose à leur dire d'aussi important, je pense qu'on fera une bande dessinée.
Tu cherches les autres? Je t'ai vu les regarder. Ils sont déjà partis. T'es nouveau?
Ouais, on est arrivé hier.
Moi, c'est Lisa. J'habite ici. T'es timide.
Je suis pas timide.
Tu veux pas me dire comment tu t'appelles?
Michael. Je m'appelle Michael.
Elle dit que la porte serait toujours ouverte. Bien qu'elle se construisait, puisqu'elle ne voulait plus que je rentre dans le village. Bon. Mais il voulait toujours m'aider. Donc le rejet, c'était vraiment la transidentité. En même temps, je ne leur donne pas le choix. Je leur dis, prenez le temps de l'accepter, mais il faut que vous sachiez que je vais le faire. Voilà.
Et ta grand-mère, du coup, dont tu parles dans ta lettre aussi, comment elle a réagi?
Donc Mamou, c'est donc ma grand-mère maternelle, qui m'a quasiment élevée. Et donc, je demande régulièrement des nouvelles à mon père, à ma mère, et elle me dit qu'elle m'aime toujours, mais qu'elle est très dévastée par cette nouvelle. Parce que la veille de l'envoi, quand je suis revenue chez eux, donc j'avais mes cheveux coupés, et elle me dit « Oh mon Dieu, tu ressembles à un mec, on dirait vraiment un mec, si tu deviens un mec, tu vas détruire ma vie, tu vas me tuer. » Et c'était des mots qui étaient assez forts, et sur le coup... J'avais un peu peur de sa réaction, mais apparemment, elle m'aime toujours, mais elle est pas, enfin, elle le vit beaucoup plus difficilement encore que ma mère, je pense.
Il y a Lisa qui est venue te chercher. Elle est venue chercher Michael. Pourquoi tu fais ça?
Je fais rien.
Tu fais croire que t'es un garçon. Ta gueule.
C'est demain que je vais voir cet endocrinologue qui nous a été conseillé donc sur Dijon. J'espère que suite à tous les papiers qu'on va lui montrer, il va me délivrer des hormones. Et au moment où je commencerai cette hormonothérapie, oui, j'espère que ce sera l'événement. D'ailleurs, je ferai de ce jour, le jour où je commencerai à prendre mon premier traitement, enfin mon première pilule, mon premier gel, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se présenter, bah, ce sera pour moi mon anniversaire, mon nouvel anniversaire. Pour moi, ce sera... une renaissance.
J'imagine que tu t'es renseignée aussi sur les démarches par rapport à l'état civil. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe?
Alors, les démarches par rapport à l'état civil sont assez compliquées et faut dire que je m'y connais un peu moins bien que Damia. Quand on va au tribunal, il faut montrer donc les attestations psychiatriques. Il faut être stérilisé pour les MTF, donc hommes vers femmes. Avoir pris de l'androcure, enfin c'est stopper de testostérone, semble-t-il. Et pour nous, avoir fait l'hystérectomie, donc enlever l'utérus. Après, il faut avoir donc, les attestations des chirurgiens, il me semble. Enfin, quelque chose, un papier d'un chirurgien disant que ça a été fait. Et puis, il faut des témoignages, des attestations de la part de parents, des proches, disant je suis telle personne et je reconnais que, bah, dans mon cas, Tom Alex est bien sociabilisé, est bien un homme. Et plus s'il y en a, mieux ça passe. Et des fois, certains tribunaux acceptent sans l'opération génitale. Ça dépend des juges, des tribunaux. Et des fois, ils parlent aussi d'expertise médicale. Donc ça, c'est un sujet assez sensible parce que moi, personnellement, j'appelle ça un viol légal, surtout pour les MTF, parce que on veut savoir si ce sont des vraies femmes. On va mesurer la poitrine, on va mesurer si jamais on fait l'opération génitale, la largeur du vagin, pour savoir si elles peuvent recevoir, alors que certaines sont lesbiennes, bi, ou alors hétéro aussi. Enfin, pour eux, c'est vraiment dans une norme hétérosexuelle. Dans mon cas, on va me demander si jamais j'accepte de faire ces expertises. On va me demander de faire des pompes, un peu de sport, pour montrer que je suis un homme. Parce qu'un homme doit être musclé et une femme doit être belle, maquillée, porter des jupes. C'est un peu les stéréotypes qu'ils veulent. Et si on ne leur montre pas ces stéréotypes, des fois, ils peuvent nous le refuser. Donc des fois, il faut un peu jouer le jeu.
C'est variable d'un tribunal de grande instance à un autre. Après, il peut y avoir des juges qui demandent des expertises médico-légales, donc avec un médecin légiste qui va répondre à un protocole qui va être plus ou moins approfondi, plus ou moins hétérocentré, qui va consister justement, oui, à venir ausculter la personne dans ses parties intimes, alors que bon, c'est pas non plus... On s'en fiche un peu, quoi. On s'en fiche royalement de savoir si la personne a un vagin ou a un pénis. Et si même si la personne porte des robes tous les jours avec des talons de 12 cm pour savoir si vraiment elle correspond aux stéréotypes féminins que cette société nous impose. Voilà. Mmh. Pareil pour les mecs. J'imagine que pour le pire, on a certainement demandé à faire de la virilisation forcée, c'est-à-dire voir si l'érection se passe bien ou pas, quoi. Voir si le pénis est capable serait même pratiquement capable de percer un hymen, je veux dire. Ce serait quasiment ça qu'on demande pour voir si la personne est vraiment un homme et pas juste un demi-homme. Voilà, enfin, c'est assez, assez particulier tout ça quand même. C'est pour ça qu'il y a une urgence à ce niveau-là pour que l'État reconnaisse une loi de changement d'état civil libre et gratuit, sans psychiatrisation, sans demande de d'attestation médicale ou même d'attestation orale ou écrite de la part de l'entourage, parce qu'on s'en moque royalement. Mm-hmm. Tout ce qui compte, c'est le ressenti de la personne et sa volonté à vouloir changer d'état civil. Voilà. Après, ça s'oppose à tout un tas de choses, hein, notamment ce qu'on appelle l'indisposition. L'indisposition du corps, c'est-à-dire que c'est une vieille loi qui date de... un vieux décret, je crois, qui date de l'époque de Napoléon, dans laquelle le corps, quand à naissance, ne nous appartient plus. Il appartient à l'État. Et c'est lui qui est capable de dire si le corps est de genre féminin ou masculin. Et c'est lui qui... c'est vers lui qu'il faut se tourner quand on veut changer notre identité concernant le corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les papiers d'identité, il y a encore la mention du sexe qui est visible. Donc ça fait partie de revendications, c'est encore en débat, on ne sait pas trop. Il y a des personnes qui voudraient revendiquer la mention du genre sur les papiers, d'autres qui ne voudraient pas. D'autres qui voudraient créer un troisième genre, mais ce qui est ridicule, parce que ça viendra en confrontation avec les intersexes, qui eux sont véritablement, qu'on pourrait revendiquer du troisième genre. Après, c'est plutôt leur parole qu'il faut écouter plutôt que la nôtre, parce qu'on n'est pas forcément les mieux calés pour cette question-là. Mais voilà, puis cette vieille loi, ce vieux décret, il faudrait le faire passer à la trappe, parce qu'il est plutôt à jour. Pour raconter légèrement l'histoire de ce décret, c'est grosso modo, ça s'est fait à l'époque où Napoléon recrutait de façon obligatoire parmi les hommes, parmi les jeunes hommes, mais toute son armée, quoi. Et lorsqu'il a fallu partir en Russie ou je sais pas quoi, y a des hommes qui ont trouvé le moyen de se faire passer pour des femmes en se faisant charcuter le bas, quoi. Donc ça n'a pas plu à Napoléon, qui a dit « Non, désolé, maintenant vous n'aurez plus le droit de vous passer pour des femmes, peu importe si vous faites opérer ou pas, votre corps ne vous appartient plus. » Voilà. Ce qui fait que maintenant, mais les personnes trans, même opérées, c'est pas sûr qu'elles puissent avoir leur état civil de modifier. Voilà.
Qu'est-ce que t'as fait alors? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça?
Je sais pas.
Viens ici. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? T'as menti et t'as entraîné ta sœur là-dedans? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Va dans ta chambre.
De plus en plus d'associations dites LGBT prennent possession de la question pour la porter haut dans les revendications, notamment via la Fédération LGBT qui a pris ces questions-là en main. Et on a tous les ans un défilé revendicatif qui s'appelle l'Existence, qui se déroule tous les mois d'octobre, et qui est un défilé, une marche de revendications très politisée, et qui consiste à porter haut les paroles des personnes trans et les revendications pour les personnes transgenres, mais aussi personnes intersexes, parce que les intersexes défilent aussi à nos côtés, qui sont aussi victimes de toute cette arbitraire médico-légale dès la naissance. Pour les personnes intersexes, en tout cas, vers l'autodéfinition pour ces personnes, c'est hors de question, quoi. C'est-à-dire qu'à la naissance, on leur dit « vous serez un garçon, vous serez une fille, mais c'est nous qui décidons si on doit vous enlever le pénis que vous avez ou si on doit vous refermer le vagin ». C'est grosse, pour imaginer très rapidement. Hein. Mais voilà, donc question lutte trans, c'est assez délicat pour le moment. Il y a pas mal de divisions de toute façon. Il faut essayer de s'entendre là-dessus, c'est pas évident. Même sur les mots, on est parfois pas d'accord, donc c'est encore pas évident. Mais après, voilà, on est quand même d'accord sur l'ensemble, qu'il faut un changement d'état civil libre et gratuit, en début de parcours et pas en fin, parce que faut que ce soit en début de parcours, pour que quand on va voir un spécialiste, et ben notre état civil corresponde, et quand on met la carte vitale, et ben on n'est pas le petit 1, le petit 2 qui nous gêne. Voilà. Ensuite, faire reconnaître la transphobie comme étant une agression, un motif aggravant d'agression, au même titre que l'est le racisme et l'homophobie. Faire reconnaître aussi que la transphobie parentale existe et que ça peut être un motif aussi de recours en justice. Voilà. Ensuite, il y a d'autres revendications qui consistent aussi à essayer de démonter en quelque sorte les équipes dites officielles, les équipes hospitalières qui sont réunies sous l'égide de la SOFECT, qui est en fait la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme. Attention, je précise, le transsexualisme, c'est vraiment le terme dans lequel ils se réunissent. C'est-à-dire que nous, à leurs yeux, nous sommes atteints d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de transsexualisme, ou syndrome de Benjamin, qui est du nom de ce fameux psychiatre qui a forgé ce terme. Voilà. Donc tout ça, on essaie de faire prendre conscience de tout ça, et d'aller à l'encontre de l'arbitraire médical et de l'arbitraire juridique.
Et là, tu viens de mentionner des désaccords sur les termes à utiliser. Est-ce que tu pourrais préciser ces divergences?
Alors, les divergences au niveau des termes sont assez variables. Il y en a quand même un certain nombre. Au niveau de la définition, notamment de qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que le genre, est-ce que le sexe et le genre, c'est un peu pareil, ou est-ce que c'est carrément différent, est-ce qu'on peut considérer que le sexe est une construction sociale au même titre que le genre est une construction sociale. Donc c'est des choses qui sont débattues actuellement. Et est-ce qu'on doit continuer à utiliser transsexuel et transsexualité? Est-ce qu'on vient pas aussi quelque part mettre l'accent sur le sexe, alors qu'il y a des personnes vers qui, chez qui le sexe n'était pas du tout capital. Est-ce qu'on doit utiliser transgenre, sachant que chez d'autres personnes, ben, le transgenre se rapproche du transgendérisme, qui est aussi un terme psychiatrique, dans lequel c'est simplement du travestissement. Donc sur le coup, de quelle façon peut-on définir tout ça? Il est préférable, selon moi, quand même, de laisser les personnes s'autodéfinir par rapport à ces termes et de se les approprier. Voilà, c'est à mon sens, c'est ce qu'il faudrait, faire. Ne pas imposer à d'autres personnes l'identification, le terme sous lequel elle veut se mettre. Voilà. Moi, je me considère transgenre, bien que je veuille faire l'opération génitale. Et voilà. Et il faut continuer à informer, et puis aussi à quand même préciser que transgenre était un terme qui était plutôt forgé, on va dire, par les militants, même s'il y a encore pas mal de questionnement autour de son origine, hein, et comme et transsexuel, qui lui est peut-être plutôt dérivé du mot transsexualisme, mais après, est-ce qu'on n'est pas en droit aussi, nous, de se réapproprier ce terme pour le réinvestir de façon militante cette fois-ci? De la même façon que chez les homos, ben, se dire PD, par exemple, ben, c'est devenu presque revendicatif et poétique. Au même titre que chez les lesbiennes, Gwyn, certaines, considèrent que Gwyn, c'est aussi un mot politique. Et ce n'est plus l'insulte qu'on doit recevoir. Voilà. Et puis, on peut multiplier les exemples, hein, avec le terme queer, qui vient d'outre-Atlantique, qui était au départ une insulte aussi vis-à-vis des personnes qui sont non-binaires, qui sortent de la norme, qui sortent des stéréotypes de genre, et qui sont réappropriés ce terme pour dire « moi, je suis queer ». Voilà.
On rentre pas ?
Non.
On va où ?
On va chez ta copine Lisa.
Non !
On sait quoi ton plan exactement ? Tu vas te faire passer pour un garçon toute l'année ? L'école, c'est dans 2 semaines. On n'a pas le choix, alors. Maintenant, faut le dire. Écoute. Je fais pas ça pour te faire du mal ou pour te donner une leçon. Je suis obligée, tu comprends ? Ça me dérange pas que tu joues au garçon. Ça me fait même pas de la peine. Et ça peut pas continuer. Si t'as une idée, dis-moi, parce que moi, je vois pas. T'as une solution ?
Et est-ce que vous diriez que lutter contre la transphobie, ça passerait aussi par une meilleure représentation des personnes trans dans les médias, dans la culture populaire, films, séries, etc.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que pour ma propre expérience, parce que je m'identifie souvent en tant que femme durant mon adolescence et mon enfance, je n'ai eu aucun repère. J'avais aucun repère, c'est-à-dire que je regardais la presse, je regardais les bandes dessinées, les romans, je lisais... tous les articles, je voyais à la télévision, les séries, les films, tout ça, le cinéma. Les personnes trans, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Comment on peut s'identifier à quelque chose qui culturellement n'existe pas ? Quand on nous présente comme seule alternative La Cage aux Folles ou bien d'autres films complètement moisis, quoi. On n'est pas représenté. Et quand on est représenté, les quelques fois où on l'est au cinéma, c'est souvent assez cliché. Et puis quand on l'est bien représenté, le gros problème, c'est que la personne qu'on voit à l'écran, c'est un acteur cisgenre, quoi. Et généralement, on fait intervenir un homme cis pour jouer une femme trans. Et je trouve ça assez révoltant, sachant qu'on est déjà très peu représenté, sachant que le taux de chômage parmi les personnes trans est quand même effarant, il est 6 fois plus élevé quasiment, et que ces personnes-là, ben, on leur offre même pas le... Et je trouve ça absolument... absolument révoltant, voilà.
Mais maintenant, il y a la série Orange is the New Black. Donc là, oui, il y a une personne transgenre qui est représentée. Mais sinon, il n'y a nulle part. C'est pour ça que bah, moi, j'ai mis 8 mois. Enfin, il y a seulement 8 mois où c'est en entrant à Cigale, dans cette association, où j'ai pu rencontrer des personnes trans, un jeune FTM. Je me suis dit, OK, la transformation homme vers femme existe, mais femme vers homme aussi. Voilà, donc ouais, il n'y a que par là que j'ai su que ça existait et que c'était possible. Justement, maintenant, si je fais un blog, c'est pas seulement pour raconter ma vie ou c'est pour si jamais il y a un jeune homme qui est perdu, qui sait pas où il en est, bah, il sait qu'il peut me contacter, il peut se repérer par rapport à mon blog parce que beaucoup m'ont dit j'ai des ressentis similaires au tien, est-ce qu'on peut parler ? Et voilà, donc. Pour les MTF, oui, on en parle beaucoup, parfois dans de mauvais termes, tout ça, mais les FTM, on n'en parle jamais. Il faut en parler. Les films, même les médias, des fois, quand ils essaient de parler d'une personne trans, des fois, quand, dans le cas de, donc, surtout des MTF, puisque les FTM, voilà. Donc c'est souvent, on donne le prénom masculin, on la genre au masculin. Des fois, les anciennes photos, quand la personne est hormonée, ça, c'est un manque de respect total. Et des fois, on leur demande s'ils ont fait l'opération génitale. C'est comme si je demandais à un homme s'il était circoncis. Je veux dire, ça ne regarde que... Enfin, c'est notre intimité. Voilà. Bon, là, je suis en début de parcours, donc on se doute bien que j'ai rien commencé. Mais Voilà, après, plus tard, quand je ressemblerai plus à un homme, physiquement, si on pose cette question, si, bah, moi, je lui demanderai « Et toi, comment ça se passe en bas ?» Voilà, je n'irai pas par quatre chemins. Il y a aussi ce manque de respect dont il faut parler. Pour eux, c'est une question lambda, comme si ils disaient « Oh, tu t'es fait couper les cheveux, bon, bah, t'as toujours ton organe génital de naissance. » Pour eux, c'est une question qui paraît normale, alors que c'est vraiment une atteinte à la vie privée.
Tout à l'heure, tu disais que les femmes trans étaient beaucoup plus présentes que les hommes trans dans les médias, disons. Et comment on pourrait expliquer ça ?
Alors moi, je dirais que c'est très simple. C'est la fascination qu'il y a autour du corps féminin, d'une façon générale. C'est-à-dire que le corps féminin, dans la société dans laquelle on vit, est toujours objet de désir sexuel. Est un objet très fétichisé, j'ai envie de dire. Et le fait de parler des femmes trans, ça devient encore plus un fétiche. C'est-à-dire que c'est un objet de fantasme, de curiosité. C'est très... comment dire ? C'est très torride, le fait d'être femme trans, parce qu'au deuxième coup, c'est l'hypersexualisation, c'est tout ça. Et fatalement, ça emmène une espèce de surreprésentation, on va dire, des femmes trans par rapport aux hommes trans. Et voilà, et le fait que l'image de la femme, ce soit un objet, de toute façon, dans cette société qui est, navré de le dire, mais cis-centrée, et hétérocentré, une société qui est aussi centrée autour de l'homme, de la vérité, du virilisme, et puis c'est en ça que la lutte féministe doit aussi s'approprier des questions trans, fatalement. On ne peut pas faire de la lutte féministe sans, en mettant une femme trans à côté, parce que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que moi je suis aussi féministe, parce que je veux absolument détruire le patriarcat, parce que c'est... Ça nous empêche de vivre et d'être considérés tels que nous sommes. Et les mecs trans aussi doivent s'approprier de ces questions-là parce qu'ils vivent la chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'un mec trans, quand il fait une transition, c'est pour gagner des privilèges, alors que ce n'est pas du tout le but de la transition. C'est parce qu'il se sent mal dans sa peau, parce qu'il s'identifie comme un homme, et puis c'est tout. C'est pas pour se faire passer pour un homme essayer de fuir une soi-disant et improbable misogynie intériorisée. Voilà.
C'est pas comme dans le dessin animé Mulan, par exemple. Mulan, elle se fait passer par un homme pour combattre. Mais non, enfin, nous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un ressenti. Voilà.
Il paraît que t'es une fille. On va vérifier.
Arrête!
Qu'est-ce que tu fais ? On va voir si c'est vraiment une fille.
Laisse-le.
T'as raison, c'est toi qui vas le faire.
Non.
Si c'est une fille, tu l'as embrassée. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse ?
Si, c'est dégueulasse.
Alors tu vas le faire.
C'est quoi la transphobie ?
Un texte de Séléné.
C'est le rejet des personnes trans pour ce qu'elles sont. La partie la plus visible, c'est la partie haineuse ou méprisante. Le sommet de l'iceberg, c'est évidemment les agressions que l'on peut subir au quotidien. Et quand je parle de quotidien, c'est bien que si je sors tous les jours, je vais avoir tendance à être agressé au moins verbalement, tous les jours, tant que je me situe encore dans une zone d'entre-deux. Tant que l'on peut lire sur ma personne, des signes visibles appartenant aux deux genres. Par exemple, pour mon cas, un habillement clairement féminin, avec des traits de visage qui peuvent, pour certains, être identifiés comme vaguement masculins. Parlons de faits. Je suis souvent traité de travelot, que ce soit directement « Hé, sale travelot !» ou indirectement « Hé, regardez, c'est un travelot !» Les autres insultes que je peux recevoir sont systématiquement au masculin, négation supplémentaire de ce que je suis. J'arrive assez bien à voir si l'on m'a identifié comme trans. Il me suffit de suivre les regards en coin et plissés, les rires, les murmures entendus, de personnes qui sont en train de me regarder ou de me pointer du doigt sans aucune discrétion. Même après 2 mois d'hormones, et une apparence qui me permet d'être désignée comme « Madame dans la majorité des magasins, j'ai encore été confronté à ce genre de propos, et à des débats publics quant à mon genre. La vie de ma mère, je vous jure, c'est un garçon. Plus grave, alors que je n'avais pas encore commencé le traitement hormonal, je ressentais parfois le besoin de faire un tour dans la rue avec une tenue féminine, expérimentant mon genre, avec la très mauvaise idée d'attendre pour cela la nuit. Cheminant sereinement, je traverse la rue à un passage piéton. Une voiture s'arrête alors. Les fenêtres s'ouvrent, j'entends qu'on m'insulte. « Sale pédé !» Je feins de ne pas entendre, je continue mon chemin. Le feu passe au vert, la voiture tourne et passe devant moi. Les mêmes insultes fusent de nouveau. J'ignore de nouveau. Je constate finalement qu'au bout de l'avenue, la voiture fait demi-tour. Panique, peur, je me mets à courir. Je change de rue le plus vite possible. Je me cache derrière une haie. Ce jour-là, j'aurais pu être agressé. J'aurais pu être retrouvé le lendemain matin, la gueule en sang ou morte. Les journaux m'auraient alors présenté comme un travesti, ou n'auraient simplement pas reparlé de moi. Les personnes trans valent moins que les personnes cisgenres aux yeux des médias, même devant la mort. On en parle peu, mais il existe aussi un important harcèlement transphobe sur Internet. J'ai déjà lu que nous étions des erreurs de la nature, 100 fois pire que les PD. J'ai déjà lu qu'il fallait nous pousser au suicide. On nous qualifie de monstres, on nie notre genre d'élection. On nous considère ouvertement comme des anomalies à éliminer. S'il existe de tels propos, clairement haineux et méprisants, c'est que notre société tout entière est basée, dans ses valeurs, sur notre mise à l'écart, sur le fait que nous serions une anomalie, une exception monstrueuse. Déjà, parce que de trop nombreux psychiatres nous considèrent comme ayant une maladie mentale. En France, encore, il existe un parcours psychiatrisant et pathologisant, s'autoproclamant officiel, la SOFECT. Il s'agit d'une association de praticiens, endocrinologues, psychiatres, chirurgiens, etc., se faisant fort de prendre en charge le transsexualisme. Transsexualisme avec des guillemets, car il est bien clair que cette prétendue maladie mentale n'existe pas. Bien entendu, aucune personne trans ne fait partie de cette association, irrespectueuse de nos parcours de vie. Les personnes concernées sont soumises à des batteries de tests, majoritairement psychiatriques, et considérées comme malades. Elles sont souvent désignées avec leur genre de naissance par les soignants, même après une éventuelle réassignation génitale. Elles sont poussées à la chirurgie comme étant un but ultime, alors qu'il ne s'agit même pas forcément d'une étape. Personnellement, je n'ai même pas encore envisagé la chose, cela viendra peut-être. Elles sont considérées comme devant absolument être hétérosexuelles dans le genre d'élection. Pour le coup, ça me disqualifierait d'office. Elles sont infantilisées, et leur apparence est jugée à chaque rendez-vous. Vous prétendez être une femme, pourquoi ne portez-vous pas de jupe? On leur prescrit des inhibiteurs de testostérone, sans pour autant compléter avec la contrepartie en oestrogène, ce qui provoque de l'ostéoporose et un état de sévère dépression. Le corps humain n'est simplement pas fait pour fonctionner sans hormones. Heureusement, nous assistons à une vague militante, prenant en compte nos vécus et notre véritable nature, et sur laquelle nous pouvons, je le pense, fonder nos espoirs, celui de voir nos identités enfin reconnues, et nos êtres enfin libérés de la simple classification biologique. Nous ne sommes aucunement à réduire à nos parties génitales, et deux personnes possédant un utérus ne sont pas forcément plus semblables entre elles qu'à une personne en étant dénuée. C'est avant tout de cela qu'il s'agit. On considère les hommes et les femmes comme étant des catégories biologiques, scientifiques et impossibles à transcender, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Il s'agit d'un état social et d'une identité, et l'apparence des organes génitaux visibles à la naissance n'est qu'un critère parmi tant d'autres pour que la personne s'affirme un jour être une femme, un homme, un peu des deux, ou rien de tout cela. D'après son ressenti, son vécu, sa manière de se percevoir. L'autre jour, je vais à un guichet SNCF pour prendre un billet de train. Je présente ma carte jeune. La guichetière hallucine, et en moins d'une minute de conversation, elle me demande si j'ai fait l'intervention. Je vous laisse juger de la pertinence de la question en un tel contexte, de la part d'une personne que je ne connais pas, et de l'effet sur ma personne. J'ai été vraiment très choqué. Dans les médias, on nous présente comme des bêtes de foire, on nous pointe du doigt comme étant des curiosités, au mieux, des monstres, bien plus souvent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes trans sont bien plus visibles que les hommes trans ou les personnes non-binaires. Nous sommes bien plus spectaculaires. Et avec la grille de lecture sexiste de la société, les hommes trans seraient des femmes qui veulent améliorer leur statut. Là où les femmes trans subissent de leur plein gré l'humiliation de la féminité. Ce qui fait de nous des monstres à exhiber. Dans les œuvres culturelles, il est courant d'humilier les personnages masculins en leur faisant revêtir des atours féminins. Et la surprise d'une femme qui est en réalité trans est un ressort comique archi-classique et insultant. Quand on pense au nombre de femmes qui sont violées, tuées ou tabassées, parce qu'elles se révèlent avoir un pénis ou en avoir eu un. Non, la blague n'est pas drôle, pas drôle du tout. Pensez-y. On considère même que nous ne devons pas nous reproduire. Dans les textes, la République française exige encore notre stérilité, afin de permettre d'autres changements d'état civil. Dans la théorie, pour avoir enfin un F sur mes cartes d'identité, pour que les administrations ne me considèrent plus comme un homme, pour que le guichetier et guichetière de la SNCF ne me donne plus ce que j'ai entre les jambes, pour que lors d'un recrutement, on ne parle plus du principe que je suis un travesti, il me faudra passer devant des experts, pouvant affirmer que je ne suis plus capable de procréer. C'est en soi une forme d'eugénisme, sans compter le fait que la procédure de changement d'état civil est longue, coûteuse, humiliante. Ce sont des personnes tierces qui pourront me décider de la légitimité de mon genre devant la République, qui auraient même le droit de la refuser, et à qui je devrais dévoiler mon vécu et mon intimité afin d'être reconnu à juste titre. C'est dans ce contexte que nous vivons, c'est dans ce contexte que chaque jour, des personnes trans, pour la plupart en outre victimes de racisme, sont tuées chaque jour. C'est dans ce contexte que l'écrasante majorité d'entre nous meurent de leur suicide, souvent sans jamais avouer la réalité de la portée de leurs gestes, dans la honte. L'autre alternative étant souvent la vie malheureuse passée à se cacher, à ne pas assumer, à pleurer dans son lit, en rêvant, à une vie que la société ne nous laisse pas espérer. On estime couramment une prévalence de la transidentité de l'ordre du pourcentage, mais c'est sans compter le nombre de personnes qui passent leur vie à se cacher, et celles qui ne dépassent pas l'adolescence, se suicidant en réalisant qu'elles ne pourront, de toute façon, jamais vivre leur vie. Moi-même encore, en me regardant nu dans le miroir, j'ai du mal avec l'apparence de mon corps au bout de 2 mois d'hormones. Je suis entre deux. J'ai l'impression, le sentiment d'être un monstre. Pourtant, je sais pertinemment qu'il ne s'agit que d'une injonction sociale. Les canons de beauté sont très binaires, ne tiennent pas en compte de la réalité des personnes. Il faut absolument que nous cessions de théoriser le vivant, en oubliant la réalité de nos vécus, de nos identités, de ce que nous sommes. Nous ne faisons qu'entretenir une usine à dépréciation, à humiliation, à dépression. Pourtant, ce que nous demandons, c'est simplement que nous acceptions, enfin, d'aimer l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire dans sa diversité. Prétendre qu'il existe des personnes normales et d'autres anormales, prétendre qu'il existe un standard, ce n'est ni plus ni moins qu'écraser tout le reste de l'humanité. Aimer l'humanité, c'est aussi non pas tolérer, ce qui induirait une hiérarchie, une gradation, une normalité, ne faisant qu'admettre une anomalie, mais bien accepter que les autres puissent ne pas être exactement pareils que nous. C'est respecter les vécus différents, les choix, les identités. Nous y arriverons, j'y crois fermement, et cette certitude me permet de vivre. Il y a du boulot. Il faudra de la visibilité, de l'éducation, de la sueur, des larmes. Mais on y arrivera. On n'a pas le choix.
I want to buy you flowers. It's such a shame you're a boy. But when you are not a girl, nobody buys you flowers. I want to buy you flowers. And now I'm standing in the shop.